La radio des motards, le portrait.
Bonjour Eric De Seyne.
Bonjour.
Alors vous êtes le président de Yamaha Motor Europe depuis le début de l'année 2018. Vous êtes passionné par la moto depuis tout petit. Je crois que vous avez fait votre première course à 14 ans, c'est bien ça?
Oui, pas loin. Oui, c'est
voilà.
Ça, 14 ans.
Vous êtes troisième amateur au Dakar en 81. Vous
au avez... Tunisie, j'aurais bien aimé au Dakar.
Ah, au Tunisie.
Ouais, ouais,
ah,
oui, Tunisie avec ouais. Fenouille, mais ouais. Le Dakar a été moins glorieux.
Ouais. Alors, côté professionnel, c'est aussi votre passion qui prend le dessus. En 84, vous vous lancez dans la production d'images réalisées grâce à des caméras embarquées à bord de motos ou de voitures de compétition. Puis vous faites un passage de 2 ans chez Mobile avant de partir pendant 11 ans chez Yamaha, que vous quittez en 2001 pour vous lancer dans la presse. Mais alors, bien sûr, pas n'importe laquelle, hein, passion toujours, la presse, auto et moto. Alors, vous rachetez le groupe Option Presse, qui possède notamment les titres Option Auto et Option Moto. Puis vous revenez chez Yamaha, où vous devenez cette fois-ci le patron de Yamaha Motor France, puis donc de la filiale européenne depuis janvier 2018. J'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Qu'est-ce qui vous a fait préférer l'asphalte à la dynastie du luxe dans laquelle vous avez grandi, Eric De Seyne?
Je crois que c'est justement la volonté d'aller sur son propre chemin. Vous savez, quand vous avez une famille entrepreneuriale, quelle que soit sa réussite et quel que soit son domaine, à un moment, vous êtes inspiré par des oncles, des tantes, des grands-pères, qui ont fait leur parcours. Et vous pouvez peut-être admirer oui, cet itinéraire. Et à un moment, ce n'est pas si simple que d'aller dans un parcours qui devrait être une évidence. Et donc, je pense que moi, j'ai toujours été à la recherche de découvrir par moi-même et de ne pas me laisser bercer par, finalement, ce qui aurait pu être la logique. Je ne sais pas si elle aurait été plus facile, parce que parfois, cette logique-là n'est pas plus facile. Mais en tout cas, moi, j'avais d'autres moteurs. J'ai toujours eu une très grande curiosité. Mes parents étaient tout le temps à me dire « Mais t'es infernal, tu découvres toujours d'autres choses à faire. Concentre-toi sur une chose et fais-le bien. » J'ai toujours eu beaucoup de mal. Donc non, je me suis toujours intéressé à tout. Et j'ai eu une chance formidable, c'est que je crois qu'enfant, je me disais toujours que je pouvais tout faire. Donc je me suis jamais fixé de limite dans ma vie. Et donc je me souviens très bien, quand j'avais 15 ans, je me disais, tiens, pourquoi pas, je faisais du piano. Mais là, je pourrais être concertiste, faire du piano de jazz, c'est super. De lendemain, pourquoi pas astronaute, bah tiens, oui, pourquoi pas. Donc je me suis jamais fixé de limite. Et malgré tout, tout ceci n'était que du bruit ou de la curiosité autour d'un axe central qui très vite est devenu la moto.
Alors vous montez sur une moto pour la première fois à l'âge de 3 ans et demi. Et puis pour vos 7 ans, en guise d'unique cadeau d'anniversaire, vous avez demandé à aller à Montlhéry avec votre père. Vous vouliez rien d'autre, juste ça.
Oui, alors déjà pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, à 3 ans et demi, il n'y avait pas de Piwi à l'époque. Donc c'était bien sur la moto de mon père. Et j'ai jamais eu une moto qui m'ont été offerte par mes parents. Mais c'est vrai que ces moments partagés avec papa autour de la moto étaient pour moi des moments de magie absolue. Où j'avais l'impression de respirer la vraie vie. Il y avait une espèce de complicité à cette époque-là, dans les années 60. On est dans les balbutiements de l'ouverture de la moto, hein, où les Japonais vont arriver à partir de 69 de manière forte et de manière très significative. Mais à cette époque-là, tout ceci, c'est encore très amateur, c'est très passion, c'est très cambouis, c'est très risque, c'est très Cromwell, c'est tout ça. Et quand vous êtes un enfant de 7 ans et que vous admirez votre père qui fait partie de ce monde-là, et ben vous êtes juste, vous n'avez qu'une envie, c'est de le vivre vous aussi. Et voilà.
Alors à 13 ans, un petit peu plus tard, pour vous faire de l'argent de poche, vous réparez les mobilettes des copains de votre grand frère. Est-ce que c'est de là qu'est venue l'envie finalement de vivre de votre passion ?
Je ne sais pas si c'est là, mais en tout cas, j'ai eu deux trucs. C'est d'abord, nous, on est une bonne famille bourgeoise, protestante, à côté de Paris. Et assez vite, moi, j'ai toujours fait du scoutisme, tout ça. Et donc, on fait des BA, on essaie de faire du bien autour de soi. Et donc, j'allais participer à l'église réformée qui organisait sa vente de paroissiale tous les ans. Et un jour, on m'a collé au stand de jouets en me disant, tiens, tu vas aider Madame Tartampion et tu vas l'aider à vendre. Et on a doublé le chiffre d'affaires. Et puis assez vite, j'ai compris, je lui disais, mais en fait, vous gagnez combien sur chaque truc qu'on vend? Alors il me dit, bah, 30%. Je dis, si je vous trouve des jouets où on peut gagner 50%, ça vous intéresse l'année prochaine? Et donc elle m'a dit, bah oui. Et du coup, moi, après Noël, une fois que j'avais utilisé mes jouets, je faisais vachement gaffe aux emballages, je gardais tout nickel, et je ramenais ça pour la vente de charité en juin suivant, ce qui tombait bien, et je revendais, et je récupérais mes 50%. Et un jour, elle a dit à maman, mais je crois que ton fils, il devrait faire du commerce. Je pense qu'il a... Et j'avais 11 ans ou 12 ans. Donc, ça m'a marqué. Je me suis dit, tiens, peut-être que le commerce, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse. Et puis, en fait, j'ai toujours été, oui, avec ce petit sens du commerce. J'avais la chance d'avoir un frère qui ne comprenait rien de roue. Et puis, j'ai réussi à le motiver pour qu'il achète son 102 MS. C'était à l'époque, suspension avant-arrière. Et j'ai appris la mécanique là-dessus. Parce que, à l'époque, dans la presse, la partie mécanique était un contenu éditorial important. Donc moi, j'ai beaucoup lu des livres de mécanique pour comprendre de temps, quatre temps, machin, carburateur, etc. Et j'ai appris la mécanique sur sa mobilette. Et j'ai appris aussi comment est-ce qu'on pouvait faire de l'argent en réparant, et en réparant pas tout, en sachant déjà quelle va être la prochaine panne, et en ayant évidemment un diagnostic très, très pointu, puisqu'on on savait qu'on ne l'avait pas réparé. Oui, donc j'ai vite pigé tout ça. Et
tout ça vient un peu de là quand même, effectivement. Ouais.
Un peu de quoi ?
Un peu de ces expériences-là.
Oui, mais donc j'ai appris. Là où je suis très reconnaissant à la moto, c'est quand vous faites avec engagement, passion, et sans vous fixer de limites, et ben vous apprenez très vite la vie, très vite la vie. Et donc, comme mes parents ont eu un très bon principe qui était « on ne t'aidera jamais à faire de la moto, jamais, c'est pas parce que moi j'en fais, papa, que toi, mon fils, t'en feras. Donc, si, par contre, je peux pas t'interdire de le faire si c'est avec ton fric. Donc, si c'est ton argent, tu fais ce que t'es. » Et donc, à partir de 13 ans, moi, j'ai cherché de l'argent tout le temps. Et pour financer ma première mobilette, mon premier permis, ma première moto, mes premières courses. Et donc, j'étais sans arrêt. Donc, j'ai fait 10 jockeys au cercle militaire à partir de 15 ans et demi pour les soirées de mariage et de machin. J'étais coursier le samedi matin pour Hermès avec leur Solex de fonction. J'ai réparé mes mobilettes le week-end. Et donc, c'était terrible parce que cette recherche d'argent pour financer la course et financer la moto faisait en sorte que, du coup, il fallait que je trouve une manière pour ne pas travailler à la maison. Donc, scolairement, j'étais pas trop mauvais. Mais je foutais rien à la maison. Et donc, j'avais toujours eu la réputation d'être le débrouillard, le démerdard. Et personne ne comprenait très bien comment ça fonctionnait. Et le problème, c'est qu'à force, vous finissez par y croire, quoi. Vous avez juste de la chance. Parce que moi, mais en fait, je me suis aperçu bien des années après que finalement, mon système n'était pas complètement idiot.
Alors, vous avez déclaré un peu plus tard, bien plus tard même, être un mauvais pilote, mais y puiser l'inspiration de la pole position pour votre vie en général. C'est pas mal, ça.
Oui, je pense que la course est une des plus belles écoles de vie que l'on peut avoir. Il n'y a pas que la course moto. Mais la course moto a quelque chose en plus de beaucoup de compétitions, c'est que vous avez le risque. Vous avez le risque de la mort, vous avez le risque de l'accident. Et je discutais l'autre jour avec Stéphane Paulus et puis avec un pilote qui s'appelle Talan, qui est anglais, qui court aujourd'hui paraplégique. Et je lui disais, tu sais, Talan, parce que j'ai vu, il a fait un film formidable que j'ai vu sur un vol, parce que je suis tout le temps dans l'avion et j'ai réussi à voir ça. Et du coup, je l'ai contacté par Facebook, etc. Je lui dis, mais comment est-ce qu'on peut vous aider ? Et je lui dis, vous savez, moi, je me souviens, à partir de 15 ans, 16 ans, quand on fait de la course moto, il faut se préparer à être paraplégique. À l'époque, moi, Et donc, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'intégrer, ce qui ne veut pas dire que je l'aurais accepté, mais je pense que cette école de la vie qu'est la course. Tout le monde est à nu. Vous êtes en pré-gris. Pour moi, la course, c'est la pré-gris. Hein. En pré-gris, l'intox commence, vous êtes là, vous savez que vous allez y aller. Et tout ça, ça vous apporte beaucoup humainement. Moi, le Dakar, ça m'a apporté... j'ai connu mes limites, parce que j'ai peur de le dire. J'ai eu la trouille sur le Dakar. J'ai eu des moments où, à cette époque-là, on n'avait pas de balises, on n'avait rien, on n'avait qu'un petit miroir de survie, avec trois fusées de détresse marine. Et moi, je n'avais pas d'assistance. Et quand vous, à un moment, vous voyez toutes les fumées qui partent à gauche et que vous pensez être sur votre bonne piste et que vous êtes tout seul, vous parlez à la moto, vous parlez. Par moment, vous dites non, okay, je l'ai voulu, mais bon. Donc, vous sentez vos limites. Et je crois que tous ces repères-là, qui sont des repères que volontairement vous êtes allé chercher, quand vous intégrez la vie professionnelle, ils vous permettent d'avoir une forme de construction morale, mentale, personnelle, qui fait que vous n'avez pas peur des événements, pas peur des autres. Et moi, je l'assume complètement. J'ai une vraie motivation, moi, c'est de rendre les gens heureux, quoi. Et donc, j'ai beaucoup de chance, parce que dans tous mes parcours professionnels, j'ai toujours essayé de respecter les gens avec moi et d'essayer qu'ils soient heureux, et pas d'écraser, et pas d'emmerder les gens. Et je pense que ce comportement-là, vous l'avez quand vous avez touché vos propres limites dans autre chose que la vie professionnelle. Il y a trop de gens qui croient qu'ils doivent se réaliser à travers leur vie professionnelle, Et finalement, je ne suis pas sûr qu'ils prennent toujours les bons carrefours.
Alors, vous pilotez toujours, hein, vous enfourchez toujours la monture mécanique, en tout cas, dans Paris, je crois, pour vous déplacer, bien sûr, au quotidien. Et puis, en tant que patron, vous testez vous-même les modèles, ce qui surprend souvent dans le monde de la moto, que le patron essaye lui-même les machines. Ça aussi, c'est une particularité d'Éric de Seine.
Oui, bah oui. Alors, d'abord, j'ai eu un mentor qui était quand même formidable, qui était Jean-Claude Olivier. Et Jean-Claude, il ne fallait pas lui la faire. Et donc, quand on était dans l'aspiration de Jean-Claude, il vous testait en permanence. Et donc, il fallait montrer qu'on allait aussi vite que lui sans jamais aller plus vite que lui. Non. Donc, il fallait tout le temps rester dans cette sage mesure. Mais la pratique vous amène l'expertise. Et on est dans des métiers où nos clients sont experts. Où nos concessionnaires sont experts. Et donc, si vous-même, vous ne vous mettez pas au niveau de vos clients, vous n'avez rien à faire là. Enfin, ça a toujours été ma logique. Et si vous voulez être expert, eh ben, à un moment, eh ben, il faut mouiller la chemise. C'est l'enduro, c'est la vitesse, c'est l'hivernal motojournal que j'avais été faire, etc. Enfin, c'est, à un moment, il faut être dedans. Comment parler à ses clients et comment essayer d'aider une marque comme Yamaha à développer les produits opportuns si on ne vit pas soi-même ce que attend le client. Donc moi, j'ai toujours travaillé ça. Et d'abord, ça me fait plaisir, mais en plus, je pense que c'est indispensable. Et travailler au développement des produits, moi, j'ai une grande chance, c'est qu'aujourd'hui, je suis le seul, ça fait un peu crâneur de dire ça, mais bon, mais je suis le seul dans le groupe qui soit considéré comme un test rider à l'usine. Ça veut dire que j'ai le droit de tester les études de faisabilité qui sont des machines qui ne sont pas encore un prototype, sur lequel on me dit, écoute Eric, voilà, récemment j'ai essayé par exemple un châssis d'FZ1, ancienne version, dans lequel il y avait une motorisation tout à fait innovante, et ils m'ont dit, écoute, voilà, essaye, donc il y a les ordinateurs, le machin derrière, tu n'auras pas le droit de se mettre par terre, mais, et donc là, vous faites des tours de circuit, et vous essayez de vous intégrer, de vous imprégner complètement des caractéristiques de ce moteur, et après X tours, je suis capable de leur dire, écoute, je pense que ça manque en cylindrée, je voudrais ça, je voudrais plus d'allonge entre tel régime et tel régime. Si on arrive à faire ça et qu'on arrive à retirer la brutalité du couple à 3500 tours, derrière ça, je pense qu'on peut l'appliquer à ça, à ça, à ça comme concept, et on part de ça. Et moi, la chance, que c'est pour ça que c'est tellement formidable, c'est que, et j'assume, hein, mais tout ce qu'on sort, c'est mes bébés, quoi. Enfin, c'est mes bébés. Heureusement que ce n'est pas les miens, mais j'y ai participé, disons que je suis... J'étais bienveillant sur le berceau. Donc, et ce qui fait que, nécessairement, ça vous donne un sens dans la vie, dans l'accompagnement des produits, dans la manière de les partager avec vos clients, avec les concessionnaires, qui fait que vous le vivez de toutes les pores de votre peau. Et moi, aujourd'hui, je suis dans une période où je me dis, j'ai construit 35 ans pour finalement arriver là où jamais je n'aurais imaginé arriver, parce que je ne savais même pas que c'était possible d'être un jour au bord du Japon de Yamaha. Mais bon, voilà, ça m'a amené là, et je ne veux rien renier, quoi. C'est pas parce que j'ai des titres maintenant qui permettent là aussi de faire le malin que je change quoi que ce soit. Je veux dire, pour moi, la vérité, elle est sur le terrain, à partager avec les clients, à rouler avec eux, et à se faire plaisir avec eux, et à voir aussi que de temps en temps, il y a des choses qu'on n'a pas tout fait comme il aurait fallu, et de le corriger vite.
Donc Éric de Seine, si je comprends bien, votre famille gère historiquement l'entreprise Hermès, on le rappelle, vous êtes vous-même le président du conseil de surveillance, mais pourtant, vous continuez de préférer le cuir de motard au carré de soie.
Oui, bah, c'est complètement d'actualité, parce que dans 8 jours, je serai au Coupe Moto Légende, où je roule sur une TZ700 et une TZ750, parce que j'ai quelques motos quand même, mais purement affectives. Je refuse le titre de collectionneur. Je ne collectionne pas, je garde des souvenirs. Et je veux garder ce lien affectif, donc toutes mes motos, c'est des motos avec lesquelles j'ai une vraie histoire. Et là, je roulerai à Dijon, sur une TZ700 de l'écurie Moraco de Patrick Ponce, 75. Et j'étais à Dijon avec papa dans la cuvette pour voir Patrick Ponce passer en 75. Il glissait des deux roues, je pense pas que je le ferais. Mais en attendant, et donc j'ai été marqué par Patrick ce jour-là. Et aujourd'hui, le fait d'avoir pu finalement retrouver, récupérer, racheter sa moto, etc. Et rouler de nouveau à Moto Légende à Dijon, voilà, c'est des moments de plaisir. Et je le dis surtout pas de côté de familial, parce que mardi d'après, ça c'est le samedi, mardi d'après, je préside l'Assemblée Générale au Palais des Congrès. Et où là, j'ai 3000 personnes en face de moi qui croient tous que c'est mon job. C'est ça qui m'amuse beaucoup, c'est qu'en fait, En fait, j'étais la semaine dernière dans la Silicon Valley avec tout le comité exécutif d'Hermès. On a pu visiter et être reçu par le vice-président de Google, d'Apple, de Facebook, de Flex. Et j'y étais, il pensait parler au chairman d'Hermès, mais moi j'étais en super espion au Yamaha et écoutais tout ce qu'il me disait en me disant mais comment est-ce que je peux utiliser cette information et la transmettre aux Japonais, parce que jamais quelqu'un de mon milieu, parce que mon milieu c'est la moto,
pourrait avoir accès
à ça. Donc sans arrêt, moi j'essaye de... Mais ça marche dans l'autre sens. Hein. À Hermès, je rapporte aussi une vision qui est celle parfois d'une approche qu'ils n'ont pas. Et donc, je trouve qu'avoir cette ouverture d'esprit en permanence est un cadeau de la vie.
Alors, le temps passe très vite, Eric Dessène. Une dernière question, très rapidement, en quelques mots. Du point de vue du motard que vous êtes, qu'est-ce que vous pensez de l'abaissement de la vitesse à 80 km/h au 1er juillet 2018 sur certains axes secondaires ?
Je suis extrêmement déçu, je trouve ça nul. Je suis comme tout le monde, ça veut dire que je souhaiterais qu'il y ait moins de morts sur les routes, mais en tant que pratiquant, je suis absolument convaincu que ça n'aura un effet totalement négligeable. Évidemment que si on tape un arbre à 80, on se fait moins mal que si on tape à 90, et encore, le problème, c'est que on est face à des gens ou des utilisateurs, des usagers maintenant de la voie publique, qui sont de moins en moins concentrés, avertis, sensibles, attentifs, et qu'il y a un vrai chantier sur ce problème de l'alcool, parce qu'il y a un truc, il y a un lobby de l'alcool en France qui est épouvantable, et pourtant je connais des gens qui sont vignerons, donc j'ai rien contre les vignerons, mais il faut arrêter. Aujourd'hui, entre 30 et 37% des accidents mortels en France sont liés à l'alcool. Il est bien supérieur pour les deux-roues motorisées. Et évidemment, ce n'est pas le conducteur du deux-roues motorisé qui est alcoolisé, c'est l'autre en face qui n'a pas pu venir. Évidemment, on a moins de chance, une fois bourré, de voir une moto qui arrive que quand, si on est sain. Et en Angleterre, on est sur des taux de 15 à 16%. Donc on est un des pays les pires. Donc qu'est-ce qu'on parle de 80 alors qu'on sait très bien où il y a des pistes, où là, par contre... Moi, je commence un peu expérimenté. J'ai eu mon permis à 16 ans, j'en ai 57, ça fait 41 ans. J'ai une fois été contrôlé pour l'alcoolémie, aux 24 heures du Mans, en sortant du circuit, c'est tout. Donc, il y a peut-être un problème quand même. Alors que les radars, ils ne m'oublient pas. Hein. Donc, je trouve qu'il faut essayer de sortir de ce carcan de la vitesse qui rassure tout le monde en disant on fait des choses contre la sécurité routière. Pour moi, l'enjeu, il n'est pas là. L'état des routes est vraiment déplorable. On a des gendarmes couchés qui ne sont pas prévenus. À moto, c'est super dangereux. Il y a des éclairages de bornes d'aménagement dans les petites villes. Et je n'ai rien contre les petites villes non plus, mais il y a des jardinières, il y a des types qui sont super créatifs, qui par moments font des choses terriblement dangereuses. Éradiquons tout ça. Et je pense qu'il y aura peut-être plus de résultats que d'essayer d'abaisser de 90 à 80. Ça, c'est sûr.
Eric Dessène, vous avez 30 secondes pour observer cette photo que je vous fais voir. 30 secondes, c'est le mot de la fin. C'est votre portrait sur la radio des motards. Est-ce que vous pouvez décrire aux auditeurs et aux auditrices ce que vous voyez ?
C'est un super souvenir. J'ai 16 ans et 2 mois. J'ai eu mon permis à 16 ans et un jour.
Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo ?
Et là, on me voit avec un casque, avec la mentonnière gauloise qui était exactement la mentonnière, le sticker qu'il y avait sur le casque de Patrick Ponce. J'ai un GPA qui était le casque de Patrick Ponce. Et j'ai ma première 100 Kawasaki. Parce que mon père m'avait dit tu n'auras pas de 125 à 16 ans, et je lui ai dit bah, écoute, super, j'ai trouvé une 100 cm3 et j'étais parti à 16 ans et j'avais fait tout un tour en 3 semaines où j'étais parti de Paris pour aller à Pamiers dès le premier jour, 850 km dans la journée, et ensuite tous les cols des Pyrénées, remonter par le Tarn, les Causses, redescendre jusqu'à Nice, traverser le Tour de Corse, la remonter par la côte Napoléon, les Alpes, et j'avais 16 ans il y a 2 mois, et à l'arrivée la moto était rincée, mais bon, c'était un très bon souvenir, et voilà, l'aventure était là.
Eric Dessène, merci beaucoup, un motard passionné, motard convaincu, grâce à ce portrait, on vous connaît un petit peu mieux, et merci beaucoup d'être venu sur la radio des motards, on espère vous recevoir une prochaine fois, on pourrait rester des heures avec vous en fait. À vous
moi j'ai quelques bouquins dans les poches quand même, j'ai des trucs dans la tête, j'ai pas mal de choses. Non mais la moto c'est une chance formidable d'aimer la moto et de l'aimer sincèrement, c'est-à-dire avec ouverture, partage et solidarité, parce que pour moi la moto c'est aussi, moi je continue à dire bonjour à tous ceux que je croise et je m'arrête si quelqu'un est en panne, parce que ça fait partie d'une qualité de vie, et la moto offre ça, et elle m'a offert beaucoup, elle m'a tellement donné que j'aime toujours redonner.
Merci Eric Dessène.
Merci.
À bientôt.
La radio des motards, l'actu de tous les motocyclistes.